d'être pris par surprise, mais le fait de ne pas être attendu. Si nous sommes dans un état moral d'attente, nous aurons beau ne pas savoir exactement, et nous ne le savons pas, la parole ne nous dit pas intentionnellement à quel moment le Seigneur vient. Nous sommes dans un état moral qui fait qu'il est attendu sans que nous sachions à quel moment il vient. C'est ça la grande différence. Et pour ceux qui ne l'attendent pas, que ce soit le monde ou les chrétiens professants ou sardes, ce sera la surprise totale. Une surprise qui fait que pour le chrétien professant, il est laissé. Voilà ce qui caractérisera le retour du Seigneur. Ceux qui l'attendent, bien que sans savoir le moment exact, mais qui sont dans un état d'attente, « Seigneur, je suis prêt, tu peux venir aujourd'hui », et dans un état de désir, eh bien, ceux-là sont enlevés. Et puis, il y a ceux qui sont laissés. Et le partage se fera à quelques milieux professants qu'on appartienne, à quelques de ces quatre églises qu'on appartienne, les fidèles, le résidu, ceux qui l'attendent, qui seront enlevés, puis ceux pour lesquels il viendra comme ce voleur qui leur enlèvera tout, y compris leur apparence, leur profession. Ils n'auront plus rien à faire valoir. Le Seigneur veuille que ce ne soit le cas dans aucune de nos familles. Nous ne laissions derrière nous aucun des nôtres.
Le voleur est aussi cité dans le chapitre 16, où il est question de la crise finale, le grand jour de Dieu. Et la parenthèse du verset 15, précisément, unit la pensée du voleur, l'idée du voleur, la venue du voleur, et la nécessité de veiller que nous avons dans l'exhortation à Sardes. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Verset 15, chapitre 16, voici, je viens comme un voleur. Bienheureux celui qui veille. Et il le manifeste en gardant ses vêtements, les vêtements que nous trouvons aussi à Sardes, que le Seigneur reconnaît comme étant la manifestation d'une marche extérieure qui le glorifie et qu'il te reconnaisse.
La notion essentielle, c'est évidemment la notion de l'avenue inattendue. À un moment où l'on ne sait pas, du voleur. C'est pas ça, c'est ce qu'on trouve, c'est essentiel. Ici, la première ligne, c'est ça, quand il dit, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point, moi, à quelle heure je viendrai sur toi. Alors, exhortation à la vigilance, ici, à la repentance, ce pas seulement à la vigilance, mais veille, et si tu ne veilles pas, garde et repens-toi. Sois vigilant, affirme une sirène, souviens-toi comment tu as reçu et entendu, garde et repends-toi. Bien, il est un moment que l'on ne sait pas. Voilà comment vient le voleur essentiellement, quelles que soient ses intentions. Que le Seigneur se compare lui-même à un voleur est extrêmement significatif à cet égard. Il ne saura point à quelle heure je viendrai sur toi. Alors, heureux les quelques noms que le Seigneur connaît, discerne à sa âme. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements, ils ont conservé leurs vêtements. Les vêtements sont-ils conservés, non souillés? Bienheureux ceux qui lavent leur âme. D'une manière continuelle ce blanchiment des vêtements doit s'opérer. Bienheureux ceux qui lavent leur robe afin qu'ils aient droit à l'arme de Dieu. Il y a le vêtement donné initialement. Il y a nos péchés lavés dans le sang d'agneau et nous voici revêtus et cela pour l'éternité. De robe blanche aux yeux de Dieu, à cause de l'œuvre de Christ, et c'est racheté, c'est semblable à Christ. Mais ensuite, comme les souillures viennent vite, et comme il est nécessaire que dans le jugement de nous-mêmes, par la grâce de Dieu, nous retrouvions, nous recherchions et nous obtenions par la confession de nos péchés, mais en vertu de l'intercession de notre précieux Sauveur et Sonneur et d'avocat, la communion avec Dieu.
Une autre manière de plier ses vêtements, c'est de laisser flotter sa robe. La robe antique était longue, flottante. Pour le service et pour la marche, il fallait la ceinture. C'est la portée de cette image que nous avons à travers toute l'écriture, ceindre ses reins. C'était se préparer à un service ou à une marche. Et parce que la robe flottante se salissait au contact de la terre, c'est évident. Alors si nous laissons flotter nos robes, c'est-à-dire s'il y a du relâchement, si nous manquons de cette ceinture morale, de cette énergie nécessaire pour la marche et le combat, un chrétien qui se laisse aller, qui se met à son aise dans ce monde, il ne peut qu'en être souillé. C'est inévitable. La souillure s'attache à nous. Et nous avons à veiller à notre témoignage, c'est-à-dire bien à ceindre nos robes. Comment? La ceinture, c'est, voyons par Éphésiens 6, peut-être dans une autre application, mais c'est être gouverné par la parole, intérieurement, en avoir nos motifs, en être imprégné, marcher par la force que cette parole nous donne intérieurement et pas extérieurement. L'attention sur la solennité de ce « Je viendrai sur toi ». Sur toi. Sur toi qui, si tu avais été fidèle, m'aurait attendu et qui, au moment voulu, m'aurait été introduit dans le bonheur, la paix, la gloire, ce qui sera la part de ceux et qui n'auront pas souillé leurs vêtements, de ceux dont la marche aura prouvé qu'ils avaient la vie, et qu'ils étaient dignes de marcher avec moi, non pas dignes par eux-mêmes, dans leur état de nature, mais comme des rachetés ayant conformé leur vie ici-bas à ce qu'ils avaient reçu et entendu. Et ce qu'ils avaient reçu et entendu, c'est de sa plénitude que nous avons reçu et grâce sur grâce. Alors quelle part pour ceux qui marcheront avec lui? Au moment même, lorsque le Seigneur viendra sur l'Église professante, ceux qui n'auront pas souillé leurs vêtements seront déjà avec lui, avec le Seigneur, pour marcher avec lui, devant lui, pour marcher non seulement devant lui, mais avec lui, en vêtements blancs. Mais présentement, il faut l'énergie de la foi pour se rendre digne, pour prendre le langage que nous avons ici. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs. On va revenir, je pense, sur ces vêtements blancs, mais j'aimerais souligner le contraste qui suit avec le début de l'Épître. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Il a la vie et il l'a pour l'éternité. Il a la vie et ne peut pas lui être ôtée. Quel contraste avec l'état général de Sardes, qui a le nom de vivre, mais qui est mort.
Bien de lire des expressions telles que celles que nous avons, soit à Thyatire, soit à Sardes. À Thyatire, je dis aux autres qui sont à Thyatire, ils n'étaient pas tous la même chose, il y en avait des autres, de ceux qui refusaient ces horribles doctrines qui avaient cours à ce moment-là, qui restaient attachés à la parole de Dieu, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Ici à Sardes, il y a quelques noms. Tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Dans ce triste état de mort, il y a quand même quelques noms. Il n'est pas dit quelques personnes, quelques croyants, quelques témoins, il est dit quelques noms. Parce que le Seigneur les connaît, comme le bon berger qui connaît ses brebis, nom par nom, il nous connaît tous. Il y a quelque chose d'intime dans cette expression, tu as quelques noms. Ils sont connus de moi, semble dire le Seigneur. Alors ils n'ont pas souillé leurs vêtements. L'apôtre Jacques nous dit ce qu'est le service religieux pur et sans tâche devant Dieu le Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver pur du monde. Voilà ce qu'on fait, ce que font ces quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. On peut poser la question, à savoir si cette promesse est pour la terre, pour le temps où nous sommes encore sur la terre, ou bien si c'est véritablement pour l'éternité. Quand nous lisons les écrits de nos frères qui nous ont enseigné, eh bien, nous voyons qu'ils partagent les deux pensées. On a plutôt la tendance à voir, disons, le côté céleste de la promesse, c'est-à-dire, quand nous serons auprès du Seigneur, ces quelques noms auprès du Seigneur, alors ils seront revêtus de vêtements blancs. Mais on voit ces mêmes frères qui terminent leur enseignement en disant que le Seigneur nous donne, pendant que nous sommes sur la terre, de marcher en vêtements blancs, c'est-à-dire d'une manière digne de lui. La question peut être posée. Et une autre question, car ils en sont dignes, nous avions eu un peu la pensée qu'il était question d'une dignité, que le Seigneur tenait compte de cette marche sainte, fidèle et irréprochable, et qu'alors, au retour d'une telle marche, voilà, ces vêtements blancs qui sont promis, d'où l'expression « ils en sont dignes ». C'est pas tout à fait ce que vous pensez, n'est-ce pas ? Ils en sont dignes.
En rapport avec la fidélité de la marche, le saint lin blanc et pur de l'Apocalypse 19 a la même pensée, et le vêtement de l'épouse, n'est-ce pas ? Saint lin sont les justices des saints, les actes justes des saints, produits par la grâce de Dieu dans leur marche ici-bas et manifestés dans la gloire. N'est-ce pas la même pensée que nous retrouvons dans les Thessaloniciens lorsque dit Gretel, la marche Gretel, et Jésus, je dirais, unifié avec l'apparition en gloire. N'est-ce pas? Quand il est dit que chapitre 3, la première Thessaloniciens, que le Seigneur fasse abonder et surabonder en amour les uns envers les autres et envers tous, comme nous aussi envers vous, pour affermir vos cœurs sans reproche, en sainteté devant notre Dieu et Père, en l'avenue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. La marche ici-bas est vue sans interruption jusqu'à la venue du Seigneur. Comme c'est la venue du Seigneur est déjà présente, ici l'apparition en gloire, les chrétiens, la venue, pas seulement la venue pour prendre les chiens et pour enlever l'Église. Mais certainement, il y a les deux côtés.
Peut-on suggérer l'illustration des fils d'Aaron
qui sont unis avec Aaron, le grand souverain sacrificateur, et l'ensemble faisant penser à Christ et aux siens. Les vêtements des fils d'Aaron sont des tuniques de fin coton. et ils leur sont donnés pour gloire et pour ornement, vêtements de beauté, la justice de Dieu dont nous sommes revêtus. Mais ensuite, il y a le côté pratique. Ces vêtements donnés pour gloire et pour ornement, dans le chapitre 8 de Lévitique, Moïse prit de l'huile, de l'onction et du sang qui étaient sur l'autel. Et il en fait aspersion sur Aaron, sur ses vêtements et sur ses fils, et sur les vêtements de ses fils avec lui. Noblesse oblige, ses vêtements de fin coton blanc, image du privilège incomparable d'avoir été amené à Dieu, rendu saint et agréable dans son bien-aimé, entraîne une marche conforme au privilège. Et ceci, cette marche ne peut être réalisée que en vertu du Saint-Esprit, dans la puissance duquel nous avons été amenés, et dans la puissance duquel nous sommes appelés à marcher, marcher par l'Esprit, et en même temps le sang qui était pris sur l'autel, la mort de Christ à laquelle nous sommes identifiés, crucifiés au monde. Moi, crucifié au monde, et le monde m'est crucifié, dit Paul. Nous en avons fini, commande dans la chair, dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous en avons fini avec le monde. Les vêtements pour gloire et pour ornement, mais aspergés de sang pris sur l'autel. Le sang, la mort de Christ qui nous sépare du monde, de toutes ses souillures. Et ensuite, l'huile, la marche selon l'Esprit, dans l'Esprit.
Dans cette lettre à Sardes, a certainement troublé beaucoup de croyants. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et là, je le confesserai son nom devant mon Père et devant les anges, ses anges. Ceux qui supposent que ce nom pourrait être effacé. Alors j'ai cherché, à l'intention d'aujourd'hui, ce que nous dit M. Darby de ce passage. Je l'ai relevé, et pour ceux qui voudraient s'en rappeler, le voici. Il s'agit de vrais croyants au milieu d'une profession mondaine. Leurs noms ne seront pas effacés du registre maintenant mal tenu sur la terre, mais qui doit être rectifié d'une manière infaillible par le jugement céleste.
C'est, n'est-ce pas, la vie divine en contraste avec le nom de libre. J'en reviens à cela. Porter le nom de chrétien. Mais celui qui est véritablement un enfant de Dieu, qui est véritablement un croyant, a son nom écrit dans le livre de vie. Les disciples étaient invités à se réjouir à cette pensée. Et si un nom est écrit dans le ciel, qu'est-ce qui va l'effacer dans le ciel? C'est pas possible. Peut être effacé de la profession, avec toute la profession extérieure, sur cette terre. Mais le croyant n'a pas à être troublé par des expressions telles que celles que nous trouvons ici.
Pas que ce serait plus simple d'admettre la pensée de deux livres. Il porte le nom de livre de vie, c'est vrai. Il y a le livre de vie où se trouvent les noms de tous ceux qui croient au Seigneur. Cela ne fait aucun doute. L'apôtre Paul prend même la peine de parler de compagnons, de frères, de sœurs à Philippe, dont les noms sont dans le livre de vie. Et d'un autre côté, ce qu'il n'y a pas, c'est cet immense registre où des hommes pleins de prétentions viennent mettre leur nom dans ce livre, estimant avoir droit à la vie de Dieu, parce qu'ils font ceci, font cela, ils accomplissent de bonnes œuvres, ils estiment avoir une conduite fort honorable, donc j'ai le droit d'avoir la vie de Dieu. Et alors, à ce moment-là, de tels noms sont effacés, n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu.
J'ai le nom de vivre. Je m'inscris, on m'inscrit sur le registre, une figure, bien entendu, de ceux qui ont la vie, et puis tu es mort. Tu es mort, il n'y a rien à voir. Le seul registre qui sera ouvert dans le ciel, c'est celui qui a le des œuvres, hein, n'est-ce pas, disons dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, au verset 15. D'abord, les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Il y a des livres, des œuvres, des registres, tout ce que chacun a fait ici-bas. Mais, des livres sur verset 12. J'ai vu les morts, les grands et les petits, se nomment entre eux. Et des livres furent ouverts, donc des livres, des œuvres. Et un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie. Et puis, verset 15. Si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Ceux qui sont écrits, ce sont les noms de ceux qui ont cru. Ce sont ceux qui ont cru ici-bas. Eh bien, leur nom ne sera jamais effacé. De ce livre de vie-là, aucun nom ne sera jamais effacé. Alors que le registre de la profession chrétienne soit là, eh bien, c'est son dans le nom de vivre, les noms sont effacés. Dans le chapitre 13, au verset 8, il y a encore la mention du livre de vie de l'agneau immolé. Et comme notre frère vient de nous le dire, leur nom n'est pas écrit dans ce livre de l'agneau, car ils n'ont pas cru, n'ont fermé leur cœur à l'évangile et à la grâce de Dieu. Leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Quant aux professants, et Judas en était un type solennel, extraordinaire, il est dit dans le psaume 69, qu'ils soient effacés du livre de vie. Mais ce sont ceux qui ont écrit eux-mêmes leur nom dans ce livre, des professants qui n'avaient pas la vie, qu'ils soient effacés du nom du livre de vie, qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes, car les justes qui sont inscrits, ceux-là, leur nom ne peut pas être effacé. Qui les ravira de ma main? Mon Père qui me les a donnés, dit-il en parlant de ses brebis, est plus grand que tous. Personne ne les ravira de sa main, personne ne peut les ravir de ma main. La sécurité du croyant, elle est éternelle, car elle est fondée sur l'œuvre impérissable du Seigneur. Mais quant à la profession extérieure sans la vie, hélas, leurs noms seront effacés.
Dans le cantique 96, 6 et 7. 96, strophes 6 et 7.
Livre où il n'y aura que les noms des justes, comme il est dit en Daniel 12, qui sera délivré? Celui dont le nom sera trouvé écrit dans le livre.
Thank you. que dit le saint, le véritable, celui qui a... J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée écrit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et que tu ne connais pas que toi, tu es le malheureux et le misérable, et pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées.
Donc, je pense que nous ne pouvons pas lire cet épître à l'assemblée de Philadelphie sans nous sentir tout à la fois humilié, repris dans nos consciences et humilié de ce que nous sommes si éloignés de mériter ce que mériter cette assemblée de Philadelphie. Être approuvé par le Seigneur, être mentionné comme celle que le Seigneur a particulièrement aimée. Et cela sera donné à connaître. Mais quelqu'un à qui il peut être rendu témoignage, et tu n'as pas renié mon nom, tu as gardé ma parole. Et nous n'avons pas de peine à reconnaître et à dire que il serait d'une prétention et d'une présomption particulièrement déplorable que de prétendre être Philadelphie. Et cependant, et nous sentons aussi qu'il n'y a pas d'autre chemin, qu'il n'y a pas d'autre voie ouverte à ceux qui veulent être fidèles en quelque temps que ce soit, en quelque temps que ce soit, mais particulièrement dans les temps où nous sommes, nous nous rapprochons à mesure que nous lisons ces épîtres aux assemblées, du moment où l'histoire de l'assemblée se clora, le moment où le Seigneur la prendra. Et ces temps étant particulièrement sérieux, les dangers plus grands, les séductions, tout ce qui appartient à ces temps fâcheux des derniers jours dont nous parle l'apôtre Paul, nous avons particulièrement besoin de considérer ce qui est la part d'un ensemble que le Seigneur peut reconnaître et comme ayant gardé sa parole et n'ayant pas renié son nom. Et que c'est là ce qui est placé devant nous afin que nous prenions ce chemin et que nous le suivions. Nous mettons de côté nous-mêmes, comme cela a été demandé tout à l'heure dans la prière, et ce qui doit être constant dans notre vie. Mais ayant nos cœurs attachés d'une telle manière à la personne de Jésus, notre Sauveur, le Seigneur, que nous puissions refléter quelque peu ses caractères, en toute humilité, en tout jugement de nous-mêmes, encore une fois, et les caractères que nous voyons présentés ici, sous lesquels il se présente d'abord. Le saint et le véritable, de telle manière que nous soyons gardés dans ces temps mauvais de toute compromission avec le mal, dans la sainteté pratique, et de tout ce qui nous écarterait de la vérité, nous préservant des erreurs qui se multiplient. Il s'agit là du saint et du véritable. Comptant sur lui, n'ayant aucune force en nous-mêmes, et c'est dans cette faiblesse qu'à la gloire le Seigneur peut manifester sa force et la glorifier. C'est là, auprès de lui, et que nous avons toute la force nécessaire. Il a préparé les voies pour son service ici-bas. Il a ouvert la porte et nul ne peut la fermer. Que lui-même, que son esprit nous guide dans ce simple entretien sur cette assemblée de Philadelphie. C'est la venue du Seigneur est présentée là et mise devant elle, devant cette assemblée fidèle. Et c'est ce qui nous peut nous faire dire que il y a une voie philadelphienne ouverte et qu'il sera jusqu'à la venue du Seigneur. À nous d'y marcher. Que les caractères de Philadelphie aient été manifestés d'une manière particulière en un temps de réveil où le Seigneur a suscité des ouvriers remarquablement doués, qualifiés et fidèles. Cela est incontestable. Ils auraient été les derniers à se dire Philadelphie. Mais nous voyons en eux les caractères philadelphiens et nous avons à nous souvenir de ces conducteurs et considérant l'issue de leur conduite, imiter leur foi. Donc le Seigneur se présente ici en disant « Voici ce que dit le Saint et le Véritable ». Ce sont les deux grands caractères sous lesquels nous le trouvons en particulier. Dans les épîtres de Jean, dans la première épître de Jean, vous avez des questions au chapitre 2 de cette première épître de Jean, du Saint. Au verset 20, s'adressant à de petits enfants, aux petits enfants dans Christ, l'apôtre peut dire, et vous, vous avez l'onction de la part du Saint. L'onction, vous avez reçu le Saint-Esprit, plus loin, nous voyons la chose, et ici, de la part du Saint. Et puis, à la fin de la même épître, et vous avez, au verset 20 du dernier chapitre, or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le véritable. Le Dieu de vérité. Le Dieu qui est le seul et vrai Dieu. Il ne s'agit pas ici du véridique, de celui dont la parole est vérité, mais qui en lui-même est le Dieu véritable. Il n'y en a pas d'autre. Et il s'est révélé dans la personne du Seigneur Jésus. Eh bien, c'est celui-là qui, gardant ses caractères tout au long de l'histoire de l'Église, peut les présenter, peut se présenter avec ces caractères-là dans la dernière phase, celle qui va être à peu près concomitante avec celle de l'Odyssée, en disant, quel que soit l'état du monde en général, de la chrétienté en particulier, et du témoignage de Dieu, et ici-bas, je suis le Saint et le Véritable. À Philadelphie, on remonte en arrière, on peut dire, au-delà d'Éphèse, on trouve ce qui manque à Éphèse, l'amour. L'amour pour le Seigneur, puisqu'il est dit, tu as gardé ma parole. Et dans l'Évangile selon Jean, quel est le test? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Qu'est-ce qui peut faire garder la parole du Seigneur? L'amour pour lui. À Philadelphie, il y a également l'amour fraternel. Philadelphie même signifie amour des frères. On voit donc qu'il y a bien la source. Peu de force, sans doute, extérieurement, pas beaucoup d'apparence, des chrétiens insignifiants au milieu d'une chrétienté très prétentieuse. Mais enfin, le cœur est là, le cœur de 1 Corinthiens 13, au milieu de ce corps professant, il y a là le corps vivant animé par un cœur chaud, par la source des affections pour le Seigneur et pour les siens. Et tout est là.
De voir comment l'apôtre Jean commence sa première épître et comment il la termine. On peut dire que en écrivant les premiers versets de sa première épître, il revient au jour d'autrefois où il allait sur cette terre dans la compagnie du Seigneur, de Jésus de Nazareth. Et il lui avait été révélé que Jésus de Nazareth n'était personne d'autre que la vie qui était auprès du Père, et la vie qui a été manifestée, la vie éternelle vue, connue dans une personne. Nous l'avons vue, nous l'avons entendue, nous l'avons pour ainsi dire touchée de nos mains, nous sommes entrés en contact étroit avec elle. Et puis, tout au cours de l'Épître, de nombreuses exhortations très pratiques, où du reste, le Seigneur Jésus, on vient nous le dire, est représenté comme étant le Saint. Vous avez reçu l'onction de la part du Saint. L'apôtre touche aussi des sujets délicats, comme au chapitre 5e, mais la terminaison de cet Épître est remarquable, elle est digne de son commencement. Et l'apôtre achève cette première épître en relevant la grandeur de la personne qu'il a vue autrefois quand il s'en allait avec elle sur la terre. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ, lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il achève cette épître comme il l'a commencé, dans le sentiment de l'immense grandeur d'une telle personne qui est le véritable. Et puis, quant à nous-mêmes, nous sommes dans le véritable. Bien, l'apôtre Jean est l'auteur du livre de l'Apocalypse, et quand il écrit cet épître de la part du Seigneur, il reçoit cet ordre, écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, le Saint, celui qui a toujours été en dehors de toute souillure. Bien souvent, les différents témoignages des apôtres rendus à l'absolue perfection de Jésus ont été relevés, redits, répétés parmi nous. Il est véritablement le Saint, le Saint et le Juste, comme a dit l'apôtre Pierre, mais il est aussi le véritable, il est celui qui est la vérité, lui-même a pu le dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Déjà dans l'Ancien Testament, on a rappelé des passages. En fait, c'est du Seigneur qu'il est question. Quand à la fin d'Ésaïe 57, il est parlé du Saint, « Ainsi dit le Saint, je suis là pour revivifier ceux qui ont l'esprit. » Je suis là pour revivifier ceux qui ont l'esprit abattu et d'autres choses encore. Le Saint dit Ésaïe en le prophète Jérémie. Ces caractères étaient déjà soulignés par les hommes de Dieu de l'Ancien Testament, mais ils ne savaient pas ce que nous avons le privilège immense de savoir, c'est que une telle personne n'était personne d'autre que Jésus lui-même. Il se présente comme étant le Saint, le véritable, et en troisième caractère, celui qui a toute autorité celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Il est celui qui a la clé de David, il est en fait cette glorieuse personne annoncée par les auteurs de l'Ancien Testament, par les prophètes en particulier, comme étant le Messie qui devait venir sur la terre pour souffrir et mourir tout d'abord, et puis plus tard, entrer dans son règne. Eh bien, celui qui se présente ici, c'est Jésus, le Saint et le véritable, celui qui a la clé, celui qui a toute autorité pour ouvrir et pour fermer, pour admettre et pour exclure. Celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira.
On a à partir de Sardes comme un nouveau commencement. L'église qui suit Sardes, Philadelphie, caractérisée par la faiblesse, comme Smyrne qui suivait Éphèse dans la première partie, est marquée, elle, par la souffrance et la pauvreté. Mais ce sont les deux seules églises, les deux seules assemblées auxquelles le Seigneur ne fait aucun reproche. Car à la faiblesse, à la pauvreté, il y a du remède. Ce qui est pratiquement sans remède, c'est l'indifférence, c'est l'insouciance, c'est le mépris de la vérité. Or, dans cette église à Philadelphie, quel bonheur pour lui, ce qu'il est essentiellement en lui-même est retenu, maintenu, proclamé, glorifié, le Saint et le Véritable. Et nous venons d'entendre quelques remarques bien opportunes à l'égard de ces deux caractères essentiels. Le Saint, celui qui est entièrement séparé du mal. Le prophète Ésaïe, quand il le voit assis sur son trône dans le temple, les pans de sa robe remplissaient le temple et les fondements du seuil étaient ébranlés. Les séraphins, les êtres angéliques les plus élevés dans la hiérarchie doivent devant lui se couvrir la face, se couvrir les pieds et proclamer « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Or l'Éternel, Jéhovah, c'est bien lui, c'est bien Jésus, celui qui est entièrement séparé du mal. Dans l'Évangile selon Jean, en présence de ses contradicteurs, il dira dans le chapitre 8, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. » Et il disait à Jésus, « Toi donc, qui es-tu ? » Et Jésus leur dit absolument ce que je vous dis. Et la note est particulièrement intéressante. Dans le principe et l'universalité de ce que je suis, sa parole, son langage, le présentait lui-même et dans la vérité. Le Saint, celui qui est entièrement séparé du mal, et dès que Dieu se met à l'œuvre pour sauver, il ne manque pas de souligner, de revendiquer le caractère de sa sainteté. On a dit l'énergie de sa nature, c'est l'amour, mais les délices de cette nature, c'est de rejeter entièrement le mal. Et lorsque le cantique de la rédemption est chanté dans Exode 15, un des caractères essentiels que l'Esprit de Dieu place devant nous et qu'il attribue à Dieu, c'est qu'il est magnifique en sainteté. Dans le Nouveau Testament, lorsque le Seigneur a paru ou va paraître dans ce monde, il est proclamé par Marie dans son cantique remarquable que le puissant qui a fait de grandes choses a ou porte le nom de Saint. Aussi bien dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, le propos de Dieu en grâce s'associe à son caractère de sainteté.
Remarquable aussi que si tel est le caractère du Seigneur, tel est le caractère de sa parole. Le Seigneur est donc saint, véritable. Nous pouvons le dire également de la parole. la parole a été faite chair, et la parole écrite que nous avons le bonheur de posséder porte également ses caractères. Elle ne pourrait pas être autrement puisqu'elle nous rend témoignage de lui. Si nous lisons le verset 129 du psaume 119e, nous trouverons ceci concernant la parole: tes témoignages sont merveilleux, c'est pourquoi mon âme les observe. Sans vouloir sortir du sujet, remarquons la grandeur, la valeur de la parole qui porte les mêmes caractères que le Seigneur lui-même, puisqu'il était la parole faite chair. Cette parole écrite est merveilleuse et nous avons le devoir, et non seulement le devoir, mais la joie et l'honneur de l'observer, se soumettre à la parole, la reconnaître dans toute son autorité. C'est certainement se placer sur le terrain de la bénédiction. Quand on commence à discuter la parole, ou si on la lit ou la présente pour donner raison à des pensées personnelles, la bénédiction est perdue. Mais la prendre, la recevoir telle qu'elle est avec prière et reconnaissance, c'est certainement se placer sur le terrain de l'approbation du Seigneur, ce qui est une bénédiction inestimable. C'est ce qu'avait fait Philadelphie, tu as gardé ma parole.
J'ai déjà parlé dans l'Ancien Testament de la clé de David, exactement la clé de la maison de David. En lisant le chapitre 22e du livre du prophète Ésaïe, peut-être que nous nous souvenons de cette scène. Il y avait à ce moment-là un homme du nom de Shebna, en Ésaïe 22. Il s'appelait Shebna, c'est lui qui avait l'intendance de la maison de l'Éternel et qui s'acquittait fort mal de son travail, tant c'était un homme égoïste et orgueilleux, ne travaillant que pour lui-même, n'ayant nullement à cœur les intérêts de son Dieu. Et Dieu, après avoir usé de patience à l'égard de cet homme, verset 15 du chapitre 22 d'Ésaïe, va entre auprès de cet intendant, auprès de Shebna qui est établi sur la maison, qu'as-tu ici, qui as-tu ici, etc., jusqu'à ce que l'Éternel doive dire au verset 19, je te chasserai de ta place et te renverserai de ta position. Et à sa place sera mis alors un homme selon la pensée de Dieu, du nom de Éliakim. Et Éliakim nous apparaît là comme un type certain du Seigneur Jésus. Et c'est à propos de lui que l'Éternel dit par son serviteur, verset 21, je le fortifierai avec ta ceinture, je mettrai ton intendance en sa main. Verset 22, je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, et il ouvrira et personne ne fermera, et il fermera et personne n'ouvrira. Il n'échappe à personne que les références à l'Ancien Testament dans le livre de l'Apocalypse sont très nombreuses, et ce qui peut nous frapper, c'est que même dans la deuxième partie de ce livre, les choses qui sont, nous avons même des références à des récits de l'Ancien Testament. C'est donc d'Éliakim, du type du Seigneur, que Dieu dit, je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, il ouvrira et personne ne fermera. Ici nous sommes au temps d'Israël, nous avons une prophétie à l'égard du peuple d'Israël dans les jours à venir. Dieu ouvrira la porte des bénédictions millénaires, personne ne pourra la fermer. Les enfants d'Israël entreront dans la jouissance de telles bénédictions, mais aussi il fermera et personne n'ouvrira. Il fermera cette sphère des bénédictions à ce peuple apostat qui aura suivi l'Antichrist et lui aura rendu son culte. Alors, Dieu fermera et personne ne pourra ouvrir. Il en est de même donc des bénédictions chrétiennes. Et ici, dans notre livre de l'Apocalypse, nous avons une porte ouverte. Une porte ouverte, on a souvent parlé du message de l'Évangile en rapport avec cette porte ouverte. Ce serait un peu restreindre la signification de ce passage que de ne penser qu'à l'Évangile. Qu'on pense à l'Évangile d'abord, c'est très juste, c'est ainsi qu'il faut penser, mais il y a tous les privilèges chrétiens, il y a cette possibilité de se rassembler, ces autorités favorables, le fait que nous sommes ici dans cette grande salle, n'étant importuné par personne, personne ne nous demande rien, tout cela c'est un immense privilège, tout cela fait partie de cette porte ouverte par laquelle nous pouvons librement passer. Personne ne la fermera que si Dieu veut qu'elle soit fermée, elle sera fermée. Mais sans l'autorisation de Dieu, cette porte ne sera jamais fermée. C'est un temps de grands privilèges que nous vivons et peut-être ne les apprécions-nous pas à leur juste valeur. Tous ces privilèges qui sont concentrés dans cette expression, une porte ouverte.
Les paroles sont donc adressées à un ensemble, assemblée de Philadelphie, mais qui n'a pas de force, des saints qui sont sans force. Alors, celui qui a l'autorité, la clé David, autorité sur tout et sur toute chose, fait tourner tous les événements, toutes les circonstances à l'accomplissement mais des conseils de Dieu, l'œuvre de Dieu sur cette terre, et cela se continue jusqu'à la fin, c'est celui-là qui s'occupe tout ce dont ont besoin ces saints sans force, de ce qui leur est demandé comme travail, car ils sont employés à l'œuvre de Dieu, et il ouvre la porte, la porte est ouverte. Elle sera ouverte jusqu'au bout, ouverte jusqu'au ciel. Chapitre 4, évidemment c'est un autre sujet, mais au chapitre 4 on trouve une porte ouverte dans le ciel. Eh bien, nous avons une porte ouverte sur la terre, comme nous avons une porte ouverte dans le ciel. Et c'est toujours le Seigneur qui l'ouvre, qui l'a ouverte, et nous nous dépendons de lui. Alors, il s'agit de dépendre de lui et de lui seul pour ce que nous avons à faire. En intimité avec lui, dans le secret avec lui, et ce secret, ce mystère de la piété, c'est qui nourrit l'âme dans ce monde, et cette nourriture intérieure produit alors des œuvres qui et non de valeur, et qui ne sont reconnus comme des œuvres de Dieu, et que accomplis dans cette communion avec le Seigneur, et dans ce chemin ouvert par le Seigneur, en passant par la porte ouverte par le Seigneur, les bonnes œuvres qui sont préparées pour nous à l'avance. Les hommes en préparent beaucoup. Nous en préparons beaucoup, et quelquefois, et sans penser assez et suffisamment à ce fait que des œuvres ne peuvent être admises, reconnues, tenues pour bonnes œuvres, et que et si elles ont leur origine, leur source et leur développement, selon la volonté du Seigneur, et cette volonté n'est connue que dans l'intimité avec lui. Il y aurait long à dire sur cette simple petite phrase « Je connais tes œuvres ». Nous sentons là, quand nous lisons la suite, tu as peu de carte, tu as peu de force, personne dans le monde peut-être n'apprécie peut-être même la connaissance de tes œuvres. Mais il y a des œuvres. Ce n'est pas parce que tu as peu de force et qu'il faut croiser les bras. Je me permets de signaler ici un danger pour nous, chers amis. Facilement, nous disons, oh, mais nous sommes, le Seigneur est puissant, mais nous avons si peu de force, nous sommes si faibles. Alors, on dit, il n'y a rien à faire, et on est paresseux. Et on est paresseux, or, il nous est toujours parlé d'activité dans les épîtres. Nous sommes toujours exhortés à l'activité. Quant à l'activité, pas paresseux. Il y a à faire, chers amis, toujours à faire. Mais comment discernerons-nous la volonté de celui dont nous sommes constitués, les serviteurs, les esclaves, sinon nous tenant près de lui, sinon en nous défiant nous-mêmes, sinon en nous défiant de tout ce que le monde apprécie, de tout ce qui a de la valeur, de tout ce qui a le nom de vivre, et qui peut le proclamer très bruyamment. Et on prend cela, on peut prendre cela pour une véritable activité selon Dieu. Ah, il y a un discernement dont nous avons besoin. Discernement des esprits, mais discernement de la volonté de Dieu. Et c'est dans l'humilité. Et ce peut être dans le secret absolu, dans l'obscurité complète. Dans l'obscurité complète aux yeux du monde, j'entends. Mais Dieu lui-même, voyant cela, et que sont accomplies et les œuvres excellentes que le Seigneur apprécie et rémunérera, récompensera. Sans doute, il sait produire aux yeux du monde ce qui doit apparaître comme les fruits de sa grâce, car c'est toujours les fruits de sa grâce, aussi bien que de sa force, de sa puissance. Et il est parfaitement vrai que la lumière est mise sur nous pour qu'elle brille, brille aux yeux des hommes, et qu'ils voient les œuvres que les fidèles, que les croyants peuvent faire, mais qu'elles sont faites en Dieu. N'est-ce pas, qu'elles sont faites en Dieu. Toujours le danger pour nous, d'une part de rester inactifs sous prétexte que nous ne pouvons rien, et l'autre danger, au contraire, faire beaucoup à la manière du monde.
Il faut une certaine force pour pousser une porte. Les croyants de Sardes, au début de la période qui a suivi la Réformation, ont beaucoup lutté pour la liberté de conscience. Ils se sont épuisés dans des combats qu'on appelle dans l'histoire les guerres de religion et qui finalement n'ont pas apporté grand-chose. C'était un faux combat. Philadelphie laisse Dieu ouvrir la porte et la porte s'ouvre toute grande. Et en effet, nous vivons des temps de tolérance presque sans... qui n'ont pas leur équivalent dans l'histoire et qui sont là comme pour dire, eh bien, c'est quand Dieu ouvre la porte qu'elle est ouverte, et ce n'est pas vous qui pouvez le faire. Alors Dieu ouvre cette porte à ces croyants qui n'ont pas beaucoup de force, et ils ont à être actifs, à déployer leur activité dans le sens d'un vrai combat. Combat pour l'évangile. Nous en avons un exemple dans l'apôtre. Il peut dire aux Corinthiens, dans le chapitre 16 de sa première épître, à propos de son séjour à Éphèse, il dit « Je demeurerai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et efficace m'est ouverte. Et il y a beaucoup d'adversaires. » 1 Corinthiens 16, verset 9. Il y avait beaucoup d'adversaires, mais Dieu lui avait ouvert la porte. Et c'est à ces mêmes Corinthiens qu'il écrira plus tard la réponse que le Seigneur lui a donnée, « Ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. » Donc la faiblesse n'est jamais une excuse, puisque nous avons la puissance de Dieu à notre disposition. La faiblesse, elle doit être sentie quant au vase, quant à l'instrument, mais les ressources de Dieu qui n'ont pas changé sont à notre disposition si nous les utilisons dans la dépendance du Seigneur. Alors la dépendance du Seigneur, c'est de mener le combat du Seigneur à la manière dont le Seigneur veut que nous utilisions ses forces et pas pour des efforts humains, l'établissement d'une sorte de christianisme terrestre qui n'en est pas un, qui est la négation même du christianisme.
Pour réaliser ces choses, elles résident uniquement dans la réalisation de la communion avec le Seigneur. Ce n'est que là que je peux trouver la force pour réaliser ce que le Seigneur peut placer devant moi. Et nous trouvons en effet ces deux choses remarquables, très précieuses pour le cœur du Seigneur, dans un temps où on abandonne, ou dans un temps où justement on ne reconnaît pas l'autorité des Écritures. Ces deux choses sont très importantes. Tu as gardé ma parole. C'est une activité, cela. C'est une sainte activité. Et tu n'as pas renié mon nom. Que d'occasions se présentent dans la vie du chrétien où nous sommes appelés à montrer que nous sommes pour Christ avant tout, que nous sommes pour la vérité avant tout, et que nous faisons passer la vérité avant tout. Ça peut passer inaperçu à bien des personnes, mais nous le faisons pour le Seigneur, par amour pour le Seigneur, parce que nous puisons dans la communion avec le Seigneur la force qui nous est donnée pour réaliser une telle marche. Au fond, nous serons pesés aux balances des hommes ou aux balances du sanctuaire. Aux balances du sanctuaire. Le Seigneur saura mettre à nu, souligner et ainsi garder, inscrire tout ce qui a été fait uniquement pour lui, n'ayant d'autre motif que lui-même, que sa gloire, et ainsi nous pouvons trouver, et là, la force morale et spirituelle pour marcher dans ce chemin qui caractérise Philadelphie. Si nous avons ainsi à prêter attention à ces paroles du Seigneur à l'égard de Philadelphie, c'est que là le Seigneur peut approuver Philadelphie depuis le commencement jusqu'à la fin. Et ce qui nous est important ainsi, c'est d'avoir la connaissance de la pensée du Seigneur et de la suivre.
C'est ce que nous avons dans la suite de notre passage, quand il est parlé du Seigneur qui a aimé Philadelphie. C'est l'amour du Seigneur pour Philadelphie, l'amour du Seigneur pour nous, pas tant mon amour pour le Seigneur. L'apôtre Jean ne parle pas tant de mon Seigneur que j'aime, il parle du disciple que Jésus aimait, il parle de l'amour de Jésus, de l'amour du Seigneur. C'est de l'amour du Seigneur qu'il est occupé. Et notre communion doit être dans cet amour avec le Seigneur, amour du Seigneur. Que nous ayons à aimer le Seigneur, cela est l'évidence même, mais ce qui doit préoccuper nos pensées et nos sentiments, c'est avant tout l'amour du Seigneur pour nous, et pas tant être occupé de nous-mêmes, même à parler beaucoup de notre amour pour le Seigneur, mais l'amour du Seigneur. Ainsi nous sommes occupés du Seigneur, ainsi nous sommes en communion avec lui. Il est donc dit de Philadelphie, ce que notre frère vient de dire du reste, que dans le sentiment de sa grande faiblesse, elle a gardé la parole, elle n'a pas renié le nom du Seigneur. Mais à côté de cette assemblée
très faible, mais qui réalise vraiment ce qui plaît au cœur du Seigneur, garder sa parole et ne pas renier son nom à côté de cette assemblée. Et alors il y en a une autre qui est appelée une synagogue, et même la synagogue de Satan. Elle est redoutable, cette synagogue. C'est un ensemble de gens qui estiment constituer le peuple mis à part, privilégié de Dieu, mis à part par Dieu, privilégié de sa part. Et il nous est dit, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs, qui prétendent être ce peuple mis à part par Dieu. Et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. Ce sont donc des gens prétentieux et des gens, comme sont souvent les prétentieux, des gens menteurs. Ils se considèrent comme étant le peuple de Dieu. Ils ne sont pas, ils sont menteurs. Et mais le Seigneur a la haute main sur cette synagogue de Satan. « Je, est-il dit, les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. » Comme on dit ce matin, le Seigneur dit, « Je connais tes œuvres. » À Sardes aussi, il dit, « Je connais tes œuvres. » Mais quelle triste conclusion. « Tu as un bruit de vivre, mais tu es mort. » À Philadelphie, « Je connais tes œuvres. » Ils connaîtront, même mes ennemis, que moi, je t'ai aimé. Des œuvres accomplies dans la conscience et dans la jouissance du grand amour du Seigneur pour nous. Voilà les œuvres que le Seigneur apprécie. Voilà des œuvres qui sont parfaites selon la pensée de Dieu. À Sardes, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Des œuvres parfaites, ce sont celles qui sont accomplies dans ce sentiment du grand amour du Seigneur pour nous.
Tu as gardé ma parole. Quelqu'un, un de nos chers devanciers, disait cette phrase, ou en tout cas, si ce ne sont pas les mots, c'est la pensée, combien elle est importante. Obéir à la parole de Dieu. Obéir en partie pour Dieu, cela équivaut à ne pas obéir du tout. Tu as gardé ma parole, non pas seulement une partie de celle-ci, celle qui nous convient, celle qui ne demande pas d'effort pour lui obéir, mais toute la parole de Dieu. À cet égard, nous aimerions citer brièvement deux exemples dans la vie de Saül. La parole de Dieu pour lui, venant de la part de Samuel, c'était qu'il attende 7 jours, dans 1 Samuel 10, jusqu'à ce que je vienne vers toi. Hélas, la chair impatiente n'a pas pu attendre. Au chapitre 13, il n'attend pas Samuel pour offrir le sacrifice, et il dira à Samuel, « Je me suis fait violence, et j'ai offert l'Holocauste. » Il avait attendu presque parfaitement. Il avait attendu les 7 jours, mais il fallait que Samuel, qui était sacrificateur, survienne. Or, ne voyant pas Samuel, au dernier moment, la chair impatiente n'a plus en souci, la parole dans son entier, et il se fait violence, il offre l'Holocauste. Comment Samuel va-t-il lui dire? Va-t-il lui répondre? Il aurait pu lui dire, mais tu as presque bien agi. Voici la réponse de Samuel. Tu as agi follement. Il avait obéi à la parole en partie seulement, et presque entièrement. Mais pour Samuel, qui lui donne la pensée de Dieu, c'était agir follement. Dans le chapitre 15 du même livre, encore un petit exemple de l'obéissance requise à la parole de Dieu, Samuel vint vers Saül, et Saül lui dit, béni sois-tu de l'Éternel, j'ai exécuté la parole de l'Éternel. Mais il ne l'avait pas exécutée telle qu'elle lui avait été communiquée par Samuel. Et Samuel lui répond, quel est donc ce bêlement de brebis à mes oreilles que j'entends? Car il y avait là la manifestation de la désobéissance de Saül, malgré sa prétention d'avoir obéi à la parole de Dieu. Mais il n'avait obéi que dans la mesure où cela ne le contrariait pas, ne mettait pas sa conscience et son obéissance à l'épreuve. Quel est le résultat? Voici, dit Samuel. Et combien cela
semble-t-il, rejoint ce que nous avons ici à Philadelphie. Tu as gardé ma parole, voici, écoutez, est meilleur que sacrifice, prêtez l'oreille, meilleur que la graisse des béliers. Et Samuel dira à Saül, en raison de cette désobéissance, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel. L'accomplir en partie, c'était pour Samuel la rejeter. Eh bien, l'Éternel t'a aussi rejeté comme roi. Deux exemples bien solennels.
J'ai cité tout à l'heure, dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » C'est là le secret. Et la réponse, « Mon Père l'aimera. » Dans le chapitre 17, le Seigneur se saisit du peu d'obéissance et de confiance en lui qu'ont eu ses disciples, et il peut dire au Père, « Ils ont gardé ta parole. » C'était traduire, « Ils m'ont aimé. Ils ont eu quelque amour pour moi et ils me l'ont prouvé en gardant ma parole. » À Philadelphie, c'est la même chose. Dire « Tu as gardé ma parole », c'est « Tu as eu de l'attachement pour ma personne ». Et le Seigneur y répond de quelle manière ? Ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. Un amour particulier du Seigneur pour ceux qui ont compris son amour et qui y ont répondu par l'obéissance. Et ce lien entre le Seigneur et les siens, on peut dire c'est vraiment une caractéristique de Philadelphie. À la Réformation, l'œuvre de Christ a été saisie, comprise, et le salut par la foi, la croix, tout ce que le Seigneur a fait pour les siens, cela a été saisi, cela a été mis en lumière, cela a été répandu, l'Évangile a été largement répandu. Mais lors du réveil, au siècle dernier, les premiers jours de Philadelphie ont été caractérisés par la reconnaissance non seulement de l'œuvre, mais de la personne qui a accompli l'œuvre, par l'attachement pour le Seigneur lui-même. Et le Seigneur est plus grand que son œuvre. Aimer le Seigneur, c'est plus qu'apprécier le salut dont nous sommes les objets. Et ainsi, ce qui caractérise Philadelphie, c'est précisément cet amour pour lui. Alors il peut dire en Jean 17, « Ils ont gardé ta parole un peu plus loin ». Il dira, ils connaîtront le monde, afin que le monde connaisse que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà la réponse du Père. Quand on aime le Fils, eh bien le cœur du Père en est réjoui. C'est un argument que le Seigneur emploie en Jean 17, là où il parle en faveur des siens. Et il sait qu'il touche infiniment le cœur du Père en faisant valoir l'amour que les siens ont pour lui. Alors ils connaîtront, le monde connaîtra que le Seigneur a aimé les siens, nous l'avons dans cette épître à Philadelphie, et le monde connaîtra aussi que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La réponse du cœur du Père à l'attachement pour son bien-aimé.
Source de l'amour, c'est toujours Dieu. Moi je t'ai aimé. Nous avons souvent relevé les quatre cercle concentrique de la manifestation de l'amour divin. Le plus grand cercle, nous savons, et c'est peut-être l'occasion de le relever ici, pour ceux qui ne seraient pas encore au Seigneur, Dieu a tant aimé le monde, c'est le cercle qui enveloppe tous les pécheurs, toutes les créatures humaines, toutes sont les objets de son amour pour le salut. Il a tant aimé le monde. Il en a donné la preuve en donnant son Fils unique. C'est le tout grand cercle de l'amour de Dieu. Personne n'est en dehors. Nous avons ensuite, dans l'Épître aux Éphésiens, l'amour pour l'Assemblée. Christ a tant aimé l'Assemblée qu'il s'est livré lui-même pour elle. C'est un amour particulier. Amour pour son assemblée, c'est ce que nous avons dans notre épître. Ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. Il n'y a aucun doute que l'assemblée de Dieu est l'objet particulier de son amour. Un autre cercle plus restreint, c'est celui de la famille chrétienne. Nous en avons un exemple dans la famille de Béthanie. La parole nous dit que le Seigneur aimait Marthe et Marie et Lazare. Chaque famille chrétienne peut prendre cet exemple d'amour pour elle-même. N'est-il pas précieux pour nos cœurs, pour tous ceux qui vivent en famille, de réaliser que la famille est aussi l'objet de son amour, et chaque membre de la famille. Une famille qui réalise qu'elle est l'objet de l'amour divin sera certainement une famille bénie. Quand elle le réalise, les enfants seront élevés dans une atmosphère de piété. On leur lira la parole de Dieu, mais la vraie parole de Dieu, pas une imitation. La parole pure, la parole sainte est véritable, comme nous venons de l'entendre. Et les enfants, élevés selon la voie qu'ils doivent suivre, une fois vieux, ne s'en détournent pas. La chose pourrait être facilement prouvée. Il y a le tout petit cercle de l'amour dont parle l'apôtre Paul quant à lui-même dans l'épître aux Galates. Christ m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Nous pouvons tous dire, si nous lui appartenons, que si nous avions été tout seuls pécheurs sur la terre, il fallait la même œuvre de rédemption pour me sauver. Pour un seul pécheur, il aurait fallu le calvaire, avec toute sa souffrance, avec tout ce qu'il comportait. Et ceci nous rend conscients de ce que nous avons personnellement coûté au Seigneur. Donc, dans ces quatre développements ou présentations de l'amour de Dieu, il y a quelque chose de touchant dans les quatre. L'immense cercle nous montre que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. Et quant à l'assemblée, il l'aime d'un tel amour qu'il la nourrit, qu'il la chérit. Concernant la famille, il viendra dans les circonstances par lesquelles elle passe pour répondre aux besoins variés des cœurs de chacun.
Parole. Cela est lié, nous venons de le voir. Rappeler combien c'est important et précieux à l'amour du Seigneur pour nous, l'amour de Dieu pour nous, pécheurs maintenant sauvés. Et alors, nous sommes entrés dans cette atmosphère nouvelle de l'amour de Dieu connu. La parole est gardée. Mais on garde quelque chose qu'on a reçu. On garde quelque chose qu'on a reçu. On la garde dans l'amour du Seigneur. Bien. Mais il a fallu d'abord écouter, recevoir cette parole. Et elle est reçue par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend par la parole de Dieu. Il y a un ordre des choses. La parole reçue comme étant la parole de Dieu, avec sa puissance, son autorité, avec son pouvoir de pénétration dans la conscience, nous faisant reconnaître ce que nous sommes, et la repentance à salut. Et la parole de salut, alors, nous révélons la personne du Seigneur Jésus comme sauveur. Et c'est la joie du nouveau converti et de celui dans lequel l'Esprit a agi de telle manière et qu'il peut se réjouir dans le Seigneur. Et ensuite, il faut garder la parole. Garder dans l'amour. Oui, oh, c'est capital, c'est prééminent. Mais si... nous voulons éviter ce qui serait une manière d'exaltation de nous-mêmes. Il y a toujours le danger du mysticisme, n'est-ce pas, quelque chose tiré de nous et quelque chose qui transforme notre vieille nature. Alors nous avons besoin continuellement de la parole comme étant la parole de Dieu, la parole avec son autorité, la parole, l'écriture, et c'est la foi en exercice. Dans le chapitre 14 de Jean, Cyril, béni à tant d'égards et qui contient tant de choses, vous remarquez que le premier paragraphe est dominé par, eh bien, par le premier verset. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Si quelqu'un croit en moi, il s'agit de croire. Et puis, dans le second paragraphe, alors, si vous m'aimez, la foi, l'amour, cela va ensemble. Les œuvres que nous sommes appelés à produire sont des œuvres de foi. Si elles ne sont pas des œuvres de foi, ce sont des œuvres mortes si ce ne sont pas de mauvaises œuvres. Et c'est par les œuvres que la foi se prouve. Œuvres de foi. Il n'est pas possible qu'un croyant vive sur cette terre sans qu'il y ait quelques fruits produits par le Seigneur. Mais nous nous retrouvons alors là dans la connaissance personnelle du Seigneur, dans la jouissance de son amour. Mais toujours la parole est là. La parole est là. Si quelqu'un garde ma parole, elle est gardée par la foi. Et c'est l'amour, un des fruits bénis de l'œuvre de l'esprit dans l'âme, l'amour pour le Seigneur répondant à l'amour dont nous sommes l'objet, c'est ce qui vient nous être présenté, qui est si précieux. Tout cela est manifesté d'une manière ou de l'autre, à la gloire du Seigneur, non pas à la nôtre. Et c'est toujours, en nous, il n'y a rien. Peu de force. Nous n'oserions pas nous en prévaloir. Mais si tu as le sentiment d'avoir peu de force, et ce sentiment te vient par la parole de Dieu, et ce sentiment te fait te rapprocher de celui qui t'a aimé, et auquel ton amour est appelé à répondre par une activité selon lui, dans la dépendance, dans l'obéissance, alors, et tu as conscience que tu as peu de force, ou bien alors, vois, j'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi tout ce qu'il faut pour accomplir ces œuvres que le monde peut ignorer ou mépriser, peu importe, mais qui sont des œuvres de foi et qui sont des œuvres d'amour. Ton travail d'amour, ton œuvre de foi, est-il dit aux Thessaloniciens, comme c'est remarquable.
Alors au verset 10, la parole revêt un caractère particulier, c'est la parole de la patience du Seigneur. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre, habiter tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.